France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action !
S'il sera encore mieux, c'est de rien dire.
En regardant ce film, il s'est dit alors, le cinéma, c'est possible. Ce doit être joyeux, cool, révolutionnaire. Oui, le cinéma est un magnifique relais entre ceux qui le font et ceux qui rêvent d'en faire. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Lui, le petit gars d'Austin au Texas, découvre un jour la nouvelle vague. Elle a changé son destin. Des décennies plus tard, il lui consacre un film, une lettre d'amour. L'histoire de Jean-Luc Godard tournant à bout de souffle. Bonjour Michel Halberstadt.
Bonjour.
Productrice avec Laurent Pétain de ce film Nouvelle Vague de Richard Linklater. Le gars d'Austin, il ne l'a pas refait à bout de souffle, mais l'a regardé sous un autre angle. Pour raconter les coulisses de cette révolution esthétique, des acteurs inconnus jusque-là du grand public, mais plus pour très longtemps. Bonjour Guillaume Marbeck.
Bonjour.
Jean-Luc Godard, c'est vous ne pensiez pas l'entendre cette phrase un jour. De la Haute-Savoie à la Nouvelle Vague, bonjour Adrien Rouillard.
Bonjour.
Alias François Truffaut. Et bienvenue Mathieu Pinchina, dans la peau de Raoul Coutard, bonjour.
Bonjour.
Le chef opérateur, l'allié, Nouvelle Vague sur nos écrans, mercredi prochain, enfin les sorties de la semaine, dominées par une palme en or. C'est parti.
Moteur Raoul. Moteur Raoul.
Moteur Raoul.
Moteur Raoul.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, le Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira.
Moi, je suis prêt à réaliser. Maintenant.
Aujourd'hui, tout le monde adore la nouvelle vague.
Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue.
On n'aura jamais J.T. Berg.
I never even said that I'd do the picture.
Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne. Hein.
Richard Linklater voulait plonger sa caméra en 1959, date du tournage d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard, recréer l'époque, les gens, l'ambiance, l'énergie. Le cinéaste américain, auteur notamment de Before Sunrise, Sunset et Midnight ou de Boyhood, en rêvait depuis 10 ans, jusqu'à ce coup de fil, Michel Halberstadt, où il vous propose le projet, ça tombe bien. Godard, vous l'avez connu, vous avez même joué un petit rôle pour lui, et surtout vous l'avez produit.
Absolument. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que Linklater ne savait pas tout ça.
Ouais.
Il savait juste que j'avais adoré Boyhood et que je ne m'étais jamais remise de ne pas avoir pu le distribuer. Donc il s'est dit, bon, ben ceux-là, ils sont suffisamment frappadingues. Parce qu'il y a plein de boîtes françaises plus solides, plus costauds, plus connues qui ont refusé le film avant nous. Et avant nous, des boîtes américaines. Parce que les gens disaient, mais enfin, un film en noir et blanc avec des inconnus, vous n'y pensez pas.
Et vous n'y pensiez pas à un film sur lui ?
Pas du tout. Non, mais c'est ce qu'il y a, c'est que c'est pas un film sur lui.
Non,
ça aurait été sur Godard. Non, mais même ça aurait été sur Godard, ça m'aurait pas intéressé. C'est un film sur Jean-Luc, sur le jeune Jean-Luc qui rêve de faire des films dont tous les potes sont déjà passés à la mise en scène et qui lui est le dernier de la classe. Quoi.
Alors que vous avez rencontré Godard et pas Jean-Luc.
Exactement. Ah, je retrouvais mon Godard dans ce Jean-Luc. Tout à fait. C'est-à-dire l'humour, ce qu'incarne très bien Guillaume, cette espèce de mélange de frime. Enfin, vu de l'extérieur, Godard, c'est un mec pas chaleureux, pas accueillant. Et en fait, une fois qu'on a réussi à percer cette carapace, c'est un homme timide, exquis, drôle, attentionné et très amical.
Alors le but, c'était pas de refaire À bout de souffle, hein, mais surtout de recréer donc l'entourage aussi, toute cette bande, les bureaux, des cahiers, le portrait d'une naissance.
De l'époque, et d'une naissance, d'une révolution, sans le savoir. C'est-à-dire qu'il s'est pas dit je vais révolutionner le cinéma, il s'est juste dit je vais faire autrement. J'ai juste envie d'essayer autre chose, sans savoir ce que ça donnerait évidemment.
Et il voulait recréer, donc il avait cette liberté pour aussi casser les codes, c'est ce que raconte Jean-Paul Belmondo.
La script a dû écrire qu'à un moment donné, je crois que parce que c'est quand même très vieux, mais c'est à l'hôtel de Suède où il lui a demandé de rester sur le palier. Mais oui, la script l'emmerdait, et des raccords, ça l'emmerdait, il voulait faire. Parce que vous savez, si vous voulez aussi dans la liberté, quand vous dites qu'on avait une liberté, la liberté, elle était là aussi. c'est que dans le cinéma, disons, traditionnel, vous avez des scripts qui nous emmerdaient à dire attention, faut mettre la main là parce qu'il y a le raccord de ci, de ça. Lui se foutait des raccords totalement. Non, mais c'est ça, si vous voulez. Le bruit, c'est ça, c'est que c'était pas montable. Et quand j'ai été, je vous dis, faire la synchro, le type m'a dit, d'abord c'est ordurier, il disait, c'est pas montable, il y a que des faux raccords. Tout le monde parlait que des faux raccords, si vous voulez. Et personne ne voyait. Si vous voulez, même je me rappelle, j'étais chez Simura à l'époque, et Simura m'a dit, pourvu que ce film sorte pas, il va arrêter votre carrière.
C'est merveilleux cette archive. Hein. Effectivement, à partir de là, il y a un gros travail de documentation, Michel Halberstadt, vraiment, sur. Sur Paris, sur même le matériel utilisé par Linklater a été celui de l'époque.
Ah, Richard nous a dit, mais il est hors de question que techniquement je filme comme lui ne pouvait pas filmer à l'époque. Donc il n'y a pas autre chose que ce qui existait à l'époque. Donc il n'y a pas de grue, il n'y a pas de luma, il n'y a pas de matériel autre que ce que Godard avait à sa disposition. Et c'est la même caméflex, celle qu'on voit dans le film, c'est la caméflex qu'il a utilisée.
Et comment on fait pour tourner dans Paris en 2025 avec cette ambiance de 59?
Eh bien, on essaye de trouver des décors à peu près ressemblants et on va trouver une boîte d'effets spéciaux géniale et on leur dit, on vous prévient, on ne veut pas vous voir. C'est-à-dire que nous, on voulait vraiment que les effets spéciaux soient invisibles et que vous soyez plongés en 59. Donc, généralement, les effets spéciaux, c'est rutilant, ça se voit.
Ouais.
On se dit, oh, quel beau camion des années 30. Oh, quelle belle rue reconstituée. Mais ça ne fait jamais vrai. Alors nous, on voulait vraiment que ça ait l'air vrai. Donc, le grand travail, ça a été de nettoyer Paris et que ça ne se voit pas.
Et faire attention aussi à ce que le langage corresponde à l'époque.
Ah, ça, c'était mon grand boulot, c'était vraiment ça. C'était de faire en sorte qu'on parle comme en 59. Et eux, quand ils revenaient, là, les trois loustiques et tous les autres, parce que pendant 15 jours, ils ont fait répétition dans les décors du film. Et le soir, ils revenaient avec des propositions, parce que Linklater leur avait dit pendant 15 jours, toutes les idées que vous avez, c'est le moment de les balancer.
Ouais.
J'écoute tout, je suis ouvert à tout. Mais une fois qu'on tourne, c'est fini là. On n'improvise plus, on travaille. Et donc pendant 15 jours, ils improvisaient. Tous les soirs, ils rentraient en me proposant des dialogues qui n'allaient pas du tout, évidemment. Tous les soirs, tel Pénélope, je retravaillais les dialogues en français et je les retraduisais en anglais pour que Eric les comprenne, puisque Richard Linklater ne parle pas un mot de français.
Ah oui.
Je crois que le seul mot qu'il a appris, c'est moteur Raoul.
C'est possible.
Oui, il dit qu'il a un problème avec les langues, qu'il a renoncé, qu'il est incapable d'en retenir aucune. Et donc
vous étiez sans cesse avec lui,
voilà,
au tournage.
C'est ça.
Ce qui arrive
et
rarement pour un producteur d'être tout le temps là.
Ouais.
Et vous avez travaillé avec Laetitia Masson.
Absolument.
Qui connaît extrêmement bien.
Qui connaît bien Godard. À nous deux, parce qu'on voulait vraiment que, en tout cas, tout ce que dit Godard dans le film, soit il l'a dit, soit il l'a écrit. On n'a mis aucun mot dans sa bouche.
Alors, c'est pas du tout un film poussiéreux, au contraire, c'est un film extrêmement moderne. Il fallait faire attention à ça, Michel Halberstadt.
Bah, c'est ni une biographie, ni une hagiographie.
Ouais.
C'est Rick, il disait toujours, parce qu'il aimait beaucoup le making-of.
Rick, c'est Richard Linklater, pardon, pour les intimes.
Excusez-nous. il aimait beaucoup le film que Rosie avait fait sur le tournage du Mépris.
Ouais.
Il disait, voilà, moi je veux que mon film, c'est comme si on retrouvait un film de Rosier sur le tournage d'À bout de souffle. C'était ça l'idée. Et donc c'est un making-of, c'est pas ni une biographie de Godard, ni une biographie de la Nouvelle Vague. Moi je dis toujours quand je présente le film, c'est pas une fiction, c'est pas un documentaire, c'est une expérience.
Ouais.
Vous allez vous retrouver en 59 avec une bande de potes et vous allez faire un film.
La merveilleuse idée du film, entre autres, c'est le casting. Donc on salue au passage le travail de Stéphane Battu, qui vous a tous trouvé des jeunes de 2024 avec des têtes de 59, ça c'était ça l'enjeu. Pas célèbre, créer l'illusion pour le public qui les regarde un peu comme des personnages de l'époque, Michel.
Être l'impression qu'on est en 59 et que c'est des gens d'aujourd'hui 59.
Avant de nous raconter l'épopée de votre casting, Guillaume, on va vous écouter. En Godard, anxieux, il n'a pas encore tourné, et il est déjà en retard sur les autres.
Quand j'ai dit à mes parents qu'il fallait que je fasse des films, c'est comme si on avait dit je veux être compositeur à quelqu'un qui n'avait jamais entendu de musique. C'est un terrain complètement inconnu pour eux, mais il faut que je réalise. C'est trop tard, Suzanne.
C'est jamais trop tard. Ça viendra quand ça viendra.
Et j'étais censé faire mon premier film avant l'âge de 25 ans. À rater la vague, ça ferait une belle épitaphe.
Tu as fait un film à 25 ans.
Un court-métrage.
Que tu as réalisé.
Peu importe, ça compte pas. Un court-métrage, c'est de l'anti-cinéma. Regarde les choses en face. Je suis le dernier des cahiers à réaliser un long. Rivette, oui. Romère, oui. Chabrol, deux fois, oui. Truffaut, oui. Romère a même écrit un roman. Et Truffaut a un an de moins que moi. Mais Godard, non.
Guillaume Barbeck, c'est complètement dingue, en réécoutant des archives du vrai Godard et en vous écoutant vous, c'est tellement proche. Comment vous avez attrapé ce ton-là? Tout seul, devant votre miroir?
En fait, moi j'ai reçu un email du directeur de casting Stéphane Battu.
Oui.
Que j'ai pris pour une arnaque totale, puisque moi j'étais que figurant à cette époque-là. Donc on me propose de jouer pour Richard Linklater, un réalisateur américain, d'interpréter Jean-Luc Godard qui tourne à bout de souffle. Si vous voulez, c'était assez lunaire pour moi. Mais je me suis dit, bon, bah, si c'est pas une arnaque, je vais quand même bosser le truc.
Ouais.
Et donc je me suis allongé chez moi, je me suis enregistré, et on avait des interviews à refaire pour la première audition. Et donc je me suis mis à enregistrer ces interviews. Et puis au début, ça ressemblait à un mélange d'accent du Sud et québécois, ça n'allait pas du tout. Et au fur et à mesure, bah, j'arrivais à découper une lettre, une consonne, oui, une syllabe, puis un mot, et puis enfin une phrase. Et après, j'ai réussi à canaliser même le système de pensée, puisque j'ai découvert qu'en fait, il finissait ses phrases assez abruptement, parce que c'était quelqu'un de précis, de pressé, et qui faisait aussi l'économie des mots. Et donc tout ça, ça m'a permis après de réagir en Godard. Et donc moi je suis arrivé donc avec ce personnage-là déjà bien construit, avec la voix et tout. Et donc comme je pensais à une arnaque, je suis allé au casting avec un petit couteau dans la poche au cas où pour me défendre.
Mais non !
Si, si. Parce que dans le mail, il y avait marqué « On cherche des acteurs qui soient proches physiquement ». Et si vous voulez, moi j'avais déjà reçu des arnaques où on demande à ce que les acteurs soient à l'aise avec leur corps, voilà, ce genre de truc. Et c'est pour soutirer, en fait, des images de charme des jeunes acteurs qui sont incrédules par rapport à ça. Non, mais c'est vrai, ça existe vraiment.
Oui, donc, oui, oui, non,
pardon. Faut le dire aux gens que ce genre de casting, c'est pas des vrais castings. Et donc moi, bon, comme je pensais que c'était complètement à des années-lumière de mon état de l'époque, j'ai cru à une arnaque. Et finalement, c'était pas une arnaque, parce que 6 mois plus tard,
oui,
le directeur de casting me rappelle et me dit « Richard est à Paris, est-ce que tu as envie de le revoir ?» Enfin, de le voir.
Ouais.
Et donc je lui dis « Bah, évidemment !» Il me dit « Ok, bon,
il
bah, dans 3 jours, tu as une audition, et ce sera entre 10h et 18h, et voilà 25 pages de texte à apprendre. » Donc là, je me dis « Pétard, les Américains,
ça rigole pas.
Ils envoient, quoi. » Et je cherche les lunettes que j'avais pour mon premier casting, parce que Godard a des lunettes fumées de soleil,
ouais,
et sans ces lunettes de soleil, on peut pas croire au personnage.
Non.
Donc c'est impossible. Et j'appelle mon pote qui m'avait prêté les lunettes, et je lui dis « Désolé, j'ai perdu les lunettes, est-ce que je te les ai pas rendues ?» Et il me dit « Non, j'ai cherché partout chez moi, je les trouve pas. » Il me dit « Je t'ouvre le magasin demain, parce que c'est un opticien, People Optique, à la place de Clichy. » Et donc, il me donne rendez-vous à 9h du mat,
ouais,
et donc j'y vais à 9h, 9h10, 9h20, 9h30, 35, 40, 45, 50, je le vois pas arriver, 55 il arrive, les pieds mouillés, et en fait il y avait eu un problème de plomberie chez lui. Il me dit « Désolé, je suis un peu en retard, prends les lunettes que tu veux ». J'ai chopé des lunettes, je suis allé chez moi, je m'ai revêtu mon costume que j'avais préparé pour l'audition, j'avais tout bien fait parce qu'il demandait de nous grimer un petit peu pour faire la blague. Et j'arrive 15 minutes en retard chez ARP.
En skate.
Mais je me dis, voilà, en trottinette électrique.
En trottinette.
Et je me dis, bon, bah, on m'a dit entre 10h et 18h, forcément, il doit y avoir quelqu'un qui passe avant moi, c'est pas grave, j'attendrai. Et j'arrive à 10h, 15. Et on me dit, mais oui, oui, ils vous attendent, qu'est-ce que vous faites? Il faut monter. Donc je prends ma trottinette électrique, je vais dans l'ascenseur, je monte au 3e étage, je sors de l'ascenseur, je me retourne, et là je vois 15 personnes qui me regardent, l'air de dire, mais c'est qui ce mec? Il arrive en retard. Et Michel me dit, mais vous êtes en retard. Et là, je me dis, merde. C'est la première impression, c'est la clé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, qu'est-ce que Godard aurait fait? Bon, il s'excuserait pas, ça c'est sûr. Donc, je vais garer ma trottinette. Et elle me dit, mais vous êtes en retard. Et je lui dis, bah, bien sûr que je suis en retard. Il fallait bien que j'aie les lunettes. Elle me dit, comment ça les lunettes? Donc, je lui raconte l'histoire, ils sont morts de rire. Et puis, je commence à jouer avec Adrien qui
avec
est
Adrien,
ici,
qui
est Truffaut, et un Chabrol. Et
un Chabrol.
Voilà.
Qui est le Chabrol, d'ailleurs.
Voilà, qui est le Chabrol. Et au bout d'une heure, il les congédie. Et je me dis, mais bon, bah, c'est bon, on va voir si ça passe ou pas, je pars avec eux. Et Stéphane me dit, non, attendez, attendez, on a d'autres choses à faire. Et donc, il y a une Jean Seberg qui arrive dans l'ascenseur, et il dit, bon, on va faire d'autres scènes avec Jean Seberg. Bon, et là, la fille, elle s'assoit à côté de moi, et elle me dit, tu vas pas le croire, ils ont pris une Américaine, j'aurai pas le rôle. Je lui dis, ah non, mais là, tu peux pas me faire ça, hein, pas maintenant. Moi, je joue ma vie, il faut que tu sois au top. Donc, je la bouche, je joue déjà le rôle du réalisateur. Et à un moment donné, ça la fait sourire, elle me dit, mais alors, comment tu t'appelles? Je lui dis, Guillaume, mais tu peux m'appeler Godard. Et là, l'oreille de Michel, qui traînait pas loin, dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle lui dit, bah, il dit qu'il s'appelle Guillaume Godard. Et là, elle dit, Guillaume Godard! Ah, excellent! Et donc, je fais comme ça toutes mes scènes en Guillaume Godard.
Non, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que. On voit ce type arriver vraiment, vraiment en retard. Quoi. Ça faisait un quart d'heure qu'on était là à temps en disant, le mec, il n'est pas sérieux quand même, c'est Linklater, il pourrait arriver. Et là, il ne s'excuse pas, il dit, il fallait bien que j'aie les lunettes quand même. et cette espèce de mélange d'arrogance qui cache la timidité et l'insécurité, c'était le personnage tout de suite. Et donc, cette manière de se prendre en main et de prendre la situation en main, comme un metteur en scène le ferait. Quoi.
Ouais.
D'un seul coup, il était dans le personnage sans même ouvrir la bouche.
Et vous étiez devant Linklater alors.
C'est ça, j'étais devant Richard Linklater. Et ce qu'il y a, c'est que Richard Linklater, en casting, il est assez silencieux.
Ah oui.
Quand on finit une prise, Stéphane se tournait vers lui et lui disait « Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu veux faire une autre prise ?» etc. Il croisait les bras et il nous disait « All right ». On n'avait pas plus, pas moins. Et donc, ensuite, la journée s'est continuée. J'ai vu trois Belmondo dans l'après-midi. Et en fait, j'ai tordu le doigt du casting directeur Stéphane Battu parce qu'on faisait une scène de bagarre avec le producteur. J'ai cru que j'avais foiré mon casting parce que j'avais presque envoyé le directeur de casting à l'hôpital. Et au bout de 8 heures de casting, je me rends compte qu'en fait, ils avaient préparé la journée pour moi. Et Michel vient me voir, je ne savais pas que c'était la productrice, et elle me dit, on a beaucoup parlé avec l'équipe, on aimerait que tu repartes avec le scénario. Donc moi je la regarde avec insistance pour savoir ce que ça veut dire, parce que je ne connais pas les codes du métier. Quoi.
Ouais.
Et puis même, j'en ai parlé autour de moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, j'ai jamais entendu une histoire pareille. Et je lui dis, mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir le droit de faire ça? Et elle me dit, je suis la productrice, je crois que j'ai le droit de faire ce que je veux.
Est-ce que vous êtes autorisé à me donner le scénario? C'était trop drôle.
Et donc je repars chez moi, je lis le scénario, je suis à toutes les pages, et là je me dis, merde. Est-ce qu'ils sont sûrs de savoir sur quel gars ils sont tombés? Parce que à la base, j'étais que figurant. Et 2 semaines après, on m'appelle et on me dit, Guillaume, c'est toi qui as le rôle. Ils vont t'appeler, ils vont commencer à te parler d'argent, machin, etc. Le tournage va commencer.
Il fallait aussi donc seulement l'accent, l'attitude, les gestes, la sportivité aussi, parce que c'était un type sportif, Godard.
Ouais. Il marchait sur les mains.
Alors, vous marchiez vraiment sur les mains dans le film?
Bien sûr.
Bon, vous êtes entraîné?
Je me suis entraîné 2 mois avec Mounia Moula, qui a aussi été la coach de Aubry Dulin, qui joue Belmondo pour la boxe.
Oui.
Et donc, on s'est entraîné pendant 2 mois, et le jour du tournage, les machinaux, ils aimaient bien rigoler. Ils se sont dit, tiens, on en a marre de poser des travelling, de faire des montages de pieds de caméra, etc. On va installer des sortes de rails au plafond du Zeyer, donc qui est un plafond en...
Le Zeyer, c'est le café où on tourne.
Voilà. Qui est un plafond en verre, en fait, avec des vitraux. Donc pas très sécure, le truc.
Non.
Et leur idée, c'était de me tenir par les jambes en cochon pendu. Au cas où, ça ne marcherait pas de marcher sur les mains, parce qu'il y avait quand même des tables, des chaises, c'était un peu dangereux. Et au final, j'aurais dit, au bout d'une fois, j'ai eu un peu mal à la cheville, j'aurais dit, les gars, vous m'enlevez ce truc, je vais le faire moi-même, ça prendra le temps que ça prendra, mais je ferai le poirier moi-même. Et c'est ce qui est arrivé, et ce qui est dans le film, et le poirier qu'on a gardé.
Et enfin, Guillaume Arbeck, vous arrivez sur le premier jour de tournage, vous avez raconté tout le casting, vous n'y croyez pas, d'un coup, il faut y croire, vous arrivez, il y a 100 figurants.
Ouais.
C'est
la tétanie.
C'est la tétanie.
En fait, si vous voulez, déjà, la veille, je reçois les lunettes qui ont fait le film.
Ouais.
Et quand je les mets sur le nez, ça faisait tellement longtemps que je les attendais, que j'ai pleuré, parce que je me disais, c'est pas possible, on n'aura jamais les lunettes, je vais jamais pouvoir donner le meilleur de moi-même.
Ouais.
Et je mets les lunettes, je pleure. Et donc, dès que j'arrive sur le tournage, je remets les lunettes, évidemment, j'ai envie de pleurer. Et donc... En plus, tout le début du film, c'est Godard qui se fait rejeter, donc c'est pas des émotions agréables à jouer.
Mmh.
Et en plus, il y a 150 figurants, il y a 50 personnes d'équipe technique, 2 caméras, 4 perchemans, et donc on se dit, quand on arrive là-dedans, en fait, tout le monde est en train de se demander, ah oui, c'est lui qui joue Godard? Ah, est-ce que je le ferais pas mieux que lui? Etc. Voilà, parce que quand on est figurant, on aimerait être à la place d'eux. Et donc moi, j'ai été dans cette situation-là. Et donc, comme moi j'arrivais et que j'avais fait que de la figuration, je me sentais un peu imposteur.
Ouais. On va écouter un autre extrait avec vous et producteur Georges de Borgard, rôle très important. Alors on va entendre le vrai Godard et ensuite vous.
Moi, je suis tombé sur un producteur que je connaissais depuis 2 ou 3 ans qui m'a dit « Est-ce que vous n'avez pas 2 ou 3 sujets pour moi qui étaient de Borgard, que je veux faire au cinéma ?» J'aimerais bien le faire, mais avec vous, ça ne marchera pas. Donc, c'est pas la peine que je vous les propose. Alors, aussitôt, quoi, qu'est-ce que c'est apportez-moi ça tout de suite. T'es un peu vexé que ça soit pas pour lui. Je lui ai apporté, il a dit, mais si, c'est tout à fait pour moi, on va le faire. Il était dans une situation financière où il fallait qu'il risque également, parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Il était en faillite 2 mois après. Moi, j'étais dans la même situation, c'est-à-dire on était tous les deux, tout à gagner et absolument rien à perdre.
On peut faire ça pour une somme dérisoire, promis.
Aussi dérisoire que vous pourrez, je n'ai même pas ça. Mais avec les noms de Truffaut, Chabrol...
Claude aussi ?
Oui, je lui ai demandé d'être notre directeur technique ou superviseur artistique. Quoi. Tout pour satisfaire le syndicat.
Truffaut, Chabrol et moi. S'ils veulent la nouvelle vague, donnons-leur un raz-de-marée.
Exactement, c'est ça l'esprit.
Vous avez beaucoup regardé Godard, mais vous êtes regardé aussi un peu sur Georges de Borgard ou pas sur ses rapports entre les deux?
Moi, je me suis regardé sur tout, en fait. Il fallait que je connaisse tout. Oui. Et donc, j'ai lu toutes les biographies, j'ai vu tous les courts-métrages dans lesquels il apparaissait un peu plus jeune, parce qu'en fait, c'était une bande de potes. Oui. Ils se faisaient tourner les uns les autres quand ils n'avaient pas d'acteur. Mmh. Bah, tiens, t'es sur le tournage, t'es en train de faire je sais pas quoi, bah, tiens, viens, on va à l'écran. Et donc, ça me permettait de voir Godard hors interview. Parce que là, l'extrait qu'on a entendu de Godard, c'est un Godard en interview.
Oui.
Donc, évidemment, il a un petit peu plus projeté, et donc, il peut chointer un peu plus. Et
oui,
voilà.
C'est ça.
Mais donc, voilà, moi, et après, c'était le rapport avec chaque personnage. Voilà. Par exemple, Suzanne Schiffman, qu'on a entendu tout à l'heure, et ben, y a des rumeurs qui disent que voilà, ils étaient peut-être plus que meilleurs amis à certains moments, qu'ils avaient tenté quelque chose. Donc ça aussi, ça joue aussi dans le rapport qu'on entretient avec les personnages.
Michel Berchtat sur Georges de Borgard, c'est quand même le pauvre, avoir un énergumène comme ça, vous vous y pensez en tant que productrice?
Bien sûr, non, mais j'adore quand tu dis soit je suis fou, soit je suis un génie de produire.
Ouais.
Bien sûr, bah, c'est très très compliqué.
C'est un aventurier.
Ah bah, bien sûr, absolument, malgré lui. Une fois qu'il était embarqué, il ne pouvait plus s'arrêter.
Vous, Adrien Rouillard, donc, je disais originaire de Haute-Savoie, le cours Florent, le théâtre, à la télé, la grande série de Jean-Xavier de l'Estrade, Laetitia.
Exactement.
Et puis ce casting. Mais c'est un peu un alignement d'étoiles pour vous, parce que j'ai appris que, en fait, Truffaut, vous l'aimez depuis que vous êtes tout petit.
Vous êtes très bien renseigné.
Ouais.
Oui, c'est vrai que c'est un peu un rêve, ce projet, parce que, en fait, quand j'ai découvert la Nouvelle Vague un peu sur le tard, parce que je viens pas forcément d'une famille ou d'un endroit très cinéphile, donc j'ai construit un peu ma culture cinématographique vers 20 ans.
Oui.
Et le premier film que j'ai regardé, c'est Les 400 coups. Et là, j'ai un peu ouvert la boîte de toutes les merveilles ensuite de cette période-là. Et c'est vrai que Truffaut, de la Nouvelle Vague, c'est le réalisateur dont je me sentais le plus proche. Et quand j'étais au cours Florent, on me disait de temps en temps qu'il y avait des ressemblances. Alors, un peu plus avec Jean-Pierre Léo, pour le coup, que Truffaut.
Oui.
Et puis après, on m'avait dit sur un truc que j'avais fait à la télé, que j'avais une petite ressemblance avec Truffaut. Et donc, c'est vrai que Truffaut, c'est quelqu'un qui est toujours très présent pour moi.
Et pourquoi c'est ce qui est important pour vous, Truffaut ?
Je pense que, bon, il y a un rapport déjà dans son thème. Déjà, le rapport de l'adolescence, qui est un rapport, moi, qui me touche beaucoup au cinéma. Et c'est vrai qu'il a beaucoup filmé là-dessus. Et aussi le rapport amoureux entre les hommes et les femmes. Moi, j'aime beaucoup le Truffaut du début. J'aime beaucoup La peau douce, tout ça, toute la saga des Douanelles, etc., Baiser volé, etc. Et voilà, c'est un réalisateur que j'ai suivi toutes ces années, pendant très longtemps. Et
quitte à avoir des posters de ses films dans votre chambre.
Il y a l'affiche des 400 coups dans ma chambre. Voilà.
Ouais.
Donc, quand j'ai reçu le casting, je me rappelle très bien, je joue au théâtre, j'ai reçu mon agent, m'a envoyé le casting, je me suis dit, bon, là, le destin fait un petit clin d'œil, il y a un rendez-vous avec quelque chose.
Mais c'est dingue.
Et je me suis dit, je me suis mis dans un état d'esprit, je me suis dit, ça peut pas ne pas être moi. Je me suis dit, là, c'est trop gros, quoi.
Et c'est donc le seul Truffaut qu'on ait vu.
Ah oui. En plus,
on n'en a pas vu d'autres.
Et vous êtes arrivé habillé comment ? C'est passé comment, ce casting ?
En fait, c'est marrant parce que c'est vrai que je connaissais beaucoup les interviews de Truffaut sur Internet, mais pas celles qu'on devait préparer pour le casting.
Oui.
Et donc, je suis arrivé un petit peu peigné pour la première étape, un petit peu peigné. C'est vrai que Truffaut avait toujours très élégant. Quand
il était
toujours habillé avec quand même le costume et la cravate. Et donc, je suis arrivé comme ça. un petit peu, voilà, avec, en jouant un petit peu le mimétisme, mais et voilà, je crois que ça l'a fait, mais j'étais tellement imbibé de lui que je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se transparaître, en tout cas.
Ce qu'il y avait de magnifique à ce matin-là, donc il y a un moment donné, ils sont assis tous les trois, Truffaut, Godard et Chabrol à une table, et on est un peu en arrière avec Richard Linklater, et il se penche vers moi, il les regarde et il me dit... Maintenant, je crois qu'on peut faire le film. C'était vraiment le matin où on s'est dit que c'était faisable.
Ouais, mais un truc s'est passé.
D'avoir vu les
trois. Oui, je crois que c'est vous qui disiez, Michel Barstadt, dans sa voix, le juste dosage de douceur et de fermeté.
Absolument. Exactement.
Vous l'avez, bon, vous avez vu beaucoup de films de Truffaut, mais vous l'avez aussi beaucoup regardé.
Je l'ai beaucoup regardé. C'est vrai qu'en amont du tournage, j'ai regardé beaucoup, beaucoup d'interviews. Et c'est vrai qu'il y a, quelque chose chez lui qui est. Voilà, il y a toujours un petit peu ce sourire un peu enfantin aussi.
Ouais.
Il a beaucoup de timidité, notamment à cet âge-là, hein, avant sa trentaine, tout ça. Mais c'était un plaisir. C'est toujours un bonheur pour un acteur de se rapprocher de quelqu'un qui a déjà existé et d'essayer de l'interpréter, quoi.
Et ce premier film, alors, quand vous arrivez pareil sur le plateau et que vous croisez Godard et les autres...
C'est vrai que c'était assez magique, parce qu'en plus, le premier jour de tournage, on a tourné au Luxor, et donc c'était la première scène du
sur
film.
Sur la terrasse.
Ouais, sur la terrasse. Et donc on s'est retrouvés avec Chabrol, Godard, Schiffman. Et là, on a vraiment l'impression d'être plongé dans les années... Enfin, moi, j'ai vécu ce tournage vraiment comme un rêve d'enfant, quoi. C'était formidable, j'avais l'impression que c'était vraiment la cour de récré, quoi.
On vous écoute.
Tu sais ce que Pierre Brandberger m'a dit avant les 400 coups ? Une vieille maxime d'Hollywood.
On n'est bien que chez soi ?
Que chaque film est constitué de 5 films différents. Le film qu'on écrit, le film dont on distribue les rôles, le film qu'on tourne, le film qu'on monte, et le film qu'on sort.
Donc c'est pas trop tard pour le tout est permis ?
Bah loin de là. Les choses changent tout le temps.
Je repense au tournage, Albert Schlatt, parce que c'était tellement proche du tournage de l'époque que les scènes où Godard avait fait peu de prises, Linklater en faisait très peu...
Non,
pareil, le même nom, non ?
Non, pas du tout.
Ah, je croyais.
Non, je ne sais pas pourquoi il y a cette rumeur selon laquelle il faisait très peu de prises, il en faisait en fait beaucoup.
Ah.
Mais en fait il a un système un peu compliqué pour nous après au montage, parce qu'il fait des prises à l'intérieur des prises. C'est-à-dire qu'il ne coupe pas et il dit « again, again, again », mais il ne donne pas d'indication. Il guette une espèce de magie, il ne sait pas ce qu'il attend lui-même. Mais donc, on en fait comme ça beaucoup, beaucoup à l'intérieur d'une même prise. Et une fois qu'il a ce qu'il veut, il demande aux acteurs si eux, ils sont contents et s'ils en ont besoin d'encore une. Mais il en fait en fait beaucoup.
Comment on le ressent, ça ?
Je pense que c'est pas ce qu'il fait d'habitude.
Ouais.
Comme il ne parle pas le français, il avait... Voilà.
Ah oui.
Il voulait se laisser imprégner de tout ce qui se passait.
Ça vous a pas perturbé ?
Non, et puis il nous a expliqué en fait avec un manifesto, donc une sorte de note qu'il nous a tous donné au début du tournage, en nous disant... au début des répétitions, pardon. Le manifesto disait, on va reconstituer le tournage d'À bout de souffle, mais on va absolument pas faire comme ils ont fait à l'époque.
Ouais.
Parce que nous, on devait recréer 59, et avec une équipe de tournage en 2025 très conséquente, beaucoup plus qu'une petite équipe. Et donc... on n'allait pas faire une prise par plan. On allait beaucoup répéter, et jusqu'à être fin prêt pour le tournage. Et une fois qu'on avait bloqué le texte sur le tournage, là, on allait faire plein de prises pour que ce soit le spontané, parce qu'on essayait de reconstituer le spontané du moment de joie et d'équipe et de partage qu'il y avait sur le tournage d'À bout de souffle.
Le troisième garçon autour de cette table, c'est Raoul Coutard, on l'écoute.
Quand un tournage est surplanifié, surpréparé, ça devient simplement une application pratique de ce qu'on a déjà pu imaginer. Moi, ce que je veux, c'est commencer chaque journée sans savoir ce que je vais filmer. Je veux chercher.
C'est comme les reportages que j'ai faits.
Et la nuit, sans éclairage, comment vous faites ? Moi, j'aime bien l'île Ford.
Comme tout le monde. C'est de la pellicule photo de sensibilité, ça n'existe pas pour le cinéma. C'est vendu en toute petite bobine.
Mathieu Pachina, c'est vous qui incarnez le chef opérateur de Godard, Raoul Coutard, qui le suivra pour de nombreux films et qui en suivra d'autres, Demi, Rouche, Costa Gavras et Truffaut, bien sûr. C'est lui qui a éclairé Tiré sur le pianiste avec ses lampes qui se pétaient la nuit, mais il s'en fichait parce que c'était un gars qui venait du reportage de guerre.
Il a fait le Vietnam, il a couvert la guerre et d'abord il a été sergent d'abord, après il a été reporter de guerre sur des reconstitutions et après je crois que c'est Delattre de Tassini qui a dit on arrête les reconstitutions, on embarque les gens avec nous, et donc il s'est retrouvé à filmer la guerre en direct, quoi. Donc c'était une expérience comme il dit dans le film d'ailleurs un peu plus dure et demandante en courage que d'aller filmer des gus dans Paris, quoi. Enfin, quand Godard dit on va faire ça comme si c'était un truc fou, lui il a un truc un peu j'ai fait les tranchées, donc si vous voulez Ça va, ouais. Quoi.
Il n'y a pas beaucoup, bon, il y a beaucoup d'interviews de Godard et de Truffaut, peut-être un peu moins de Coutard.
Il y en a sur la fin de sa vie, surtout, que j'ai écouté. Mais le gros travail que j'ai fait, c'était d'essayer de le découvrir jeune. Parce que comme j'ai beaucoup de matière sur lui plus âgé, c'est un regard sur sa jeunesse, donc forcément, c'est un peu biaisé. Ouais. Et donc, j'ai lu son autobiographie, que j'ai d'ailleurs pas fini, parce que je me suis arrêté juste après à bout de souffle. Et je me suis demandé si c'était de la flemme ou je sais pas, j'ai pas tranché.
Maintenant que tu as fini le tournage, tu peux peut-être continuer à le lire.
Oui, à l'occasion.
Il y a une super belle relation de confiance entre les deux. Je me disais, je pensais à un truc. En ce moment, depuis longtemps, il y a le combo où on peut vérifier les images. Godard, Michel Albertchat, il pouvait rien vérifier.
Rien du tout.
Donc c'est une question d'immense confiance entre les deux.
Et en plus, il ne regardait jamais au cadre. Ouais. Donc, vraiment, il avait une confiance totale.
Il le dit dans le film d'ailleurs.
Ouais.
On l'a mis, ça, c'est drôle. Où Coutard demande à Godard, tu veux regarder ? Et il dit non. Donc bon, et très vite, Coutard comprend qu'il a les rênes sur beaucoup de choses.
Ouais. Sauf à la fin. Il dit, tu veux le voir ? Godard lui dit non. Et Coutard dit, dernier plan du film, j'aimerais le savoir. Ouais.
C'était bien le casting aussi.
Le casting, c'était. C'est, en fait, dans ce que raconte Guillaume, je m'y retrouve beaucoup vraiment. C'est quelqu'un de très silencieux. Moi, à la base de la base de la base, c'est un copain qui m'appelle, qui me dit, j'ai un casting, là, j'ai vu ça sur Facebook. Est-ce que tu peux m'aider pour faire une tape, c'est-à-dire de se filmer à la maison? Mais peut-être il y a un rôle pour toi. Il m'envoie la photo, je dis oui, bon, ok, pourquoi pas, mais vraiment, je vais t'aider. J'avais vraiment l'impression qu'il faisait ça pour justifier qu'il me demande de l'aide, quoi.
Ouais.
Et donc, hélas, il a pas été pris. Je l'embrasse. Je le remercie infiniment pour ce qu'il a
fait. C'était pour quel rôle, lui?
Il faisait qui? Je sais plus.
Pas grave.
Je crois que c'est le rôle de Côme.
Ah oui.
Ah, Romère.
Romère, je crois que c'est Romère.
Et vous étiez avec en fait, Guillaume Arbeck.
Oui, alors moi, il m'est arrivé un truc génial, c'est que une semaine avant le casting, j'ai un copain qui m'appelle pour son anniversaire.
Il y a beaucoup de
J'y vais, j'y connais personne.
Ouais.
Je rencontre une jeune femme très sympathique avec qui je discute, qui me dit, tu fais quoi? Je dis, je suis comédien. Ah, mais mon mec aussi, il est comédien, il va percer de fou, là. c'est le truc que j'ai déjà entendu 1000 fois. Je dis, ouais, d'accord. Et elle me dit, il va jouer Godard. C'est-à-dire, dans le film de Linklater, je dis, ah oui, c'est sérieux. Et puis je dis, ah, mais j'ai passé le casting, le premier tour, moi, ah bon, mais viens, je te le présente. Et du coup, dans cette soirée, on s'est retrouvés tous les deux avec plein de gens qui buvaient des coups, qui faisaient de la musique, qui chantaient, qui dansaient. Et nous deux, assis sur des chaises, à faire la scène. À jouer la scène. C'était génial. Du coup, il m'a donné plein de conseils. Il me dit, en fait, on a vu d'autres Coutards, mais c'était trop comme ci, pas assez comme ça. Je dis, ah, parce que moi, je le vois comme ça, mais oui, carrément. En fait, il y a ce truc-là. Et on commence, vas-y, fais-le un peu. Il commence à faire sa voix de Godard au milieu de cette soirée à 1h du matin en plein Paris, c'était délirant. Et c'est comme ça que ça a libéré quelque chose.
Ouais, vous êtes rendu compte que c'est une vraie bande actuelle, effectivement, comme dans le film. Guillaume Marbeck, Adrien Rouillard et Mathieu Pinchina. Michel Halberstadt à la production avec Laurent Pétain de ce très beau film merveilleux,
Courrézy.
Ça sort mercredi prochain. On se retrouve après Gaëtan Roussel.
La 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 la
ta part de savoir, d'oublier, de revoir, ta part de bonheur, de pleurer quand sonne l'heure, ta part de crier, de contredire, oui de t'enfuir, ta part de vivre le meilleur comme le pire, ta part de vouloir, de recevoir, de réussir, ta part de sourire, de regretter et de ne rien dire, ta part entière, ta liberté, tendre et chère, ta part d'ombre, de lumière, d'idées sombres. De virage, de ligne droite, tes deux visages, ta part d'ange et de démon, ah oui ta part change, ta part de raison, ainsi soit-il, quelque chose de spécial, ta part d'horizon, d'inutile ou d'idéal. dissimuler, de ne rien dire.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer, Laurent, avec cette palme d'or, un simple accident de Jafar Panahi, Iran de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire, mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe.
Ben oui, alors c'est une palme d'or, en tout cas à mes yeux, ô combien méritée, c'est pas toujours le cas, qui récompense aussi un grand cinéaste et sa filmographie. Le disciple de Kiarostami, hein, qui est Panahi, ben, a bien retenu les leçons du maître quand il s'agit par exemple de traquer le mentir vrai dans le quotidien le plus prosaïque. Avec aussi un autre point commun qui serait la voiture, avec cet habitacle habité et en dehors du monde. Le film d'ailleurs commence là, et il se poursuit par une farce absolument absurde, grinçante, glaçante aussi, jusqu'à cette scène ultime, absolument saisissante, mais dont on ne dira rien ici. Ainsi va le cinéma de Panahi. Eh bien, il va justement à l'essentiel.
Au milieu de ce concert critique dithyrambique, est-ce possible d'y apporter un contrepoint ? Je me servirai alors d'un autre film français. Celui-là est sorti en 2024, Les Fantômes. Première œuvre de Jonathan Millet, sur la traque d'un ancien criminel de guerre par l'une de ses victimes, plus subtil, moins frontal, et tout aussi dévastateur sur le sujet de la vengeance et du pardon et des traces du trauma sur la victime. Peut-être faudrait-il ne pas les comparer, mais reconnaître que sur la question liée au traumatisme du totalitarisme, eh bien ces fantômes n'ont rien à envier à ce simple accident qui reste un grand film. Cervantes avant Don Quichotte d'Alejandro Amenábar, le cinéaste espagnol en 1575. Miguel de Cervantes est capturé par le sultan d'Alger. Retenu prisonnier, Cervantes invente chaque jour des récits d'aventure qui fascinent tour à tour ses co-détenus. Et le sultan, peu de films sont consacrés à l'écrivain. Il a choisi cet épisode en prison, ses 5 années.
Oui, c'est là qu'on découvre un culte que nous sommes, que la bio de Cervantes vaut peut-être autant que ses livres. En tous les cas, cet épisode est assez incroyable, une captivité de 3 ans au cours de laquelle Cervantes se transforme en Sherazade, hein, tout simplement. Alors, on lui dit pas quand même qu'il aura la tête coupée s'il continue pas l'histoire, mais c'est un peu quand même ce qui se passe. Du coup, le Amenábar refuse l'idée de nous montrer la jeunesse ou la jeunesse d'un grand écrivain. Il n'y a pas ça, heureusement on ne voit pas des moulins dans le film par exemple, donc ça c'est bien évité. Ce qu'on peut un tout petit peu déplorer, c'est le dernier tiers où là il y a une incursion dans la vie privée de Cervantes, dont on a dit qu'il aurait pu être homosexuel et que cette homosexualité serait née à ce moment-là. Bon, tout ça devient un peu kitsch et un peu moins intéressant.
C'est Godard qui tout ça. Happy End, première fiction de Neo Sora, le fils du musicien Sakamoto, Tokyo dans un futur proche, c'est une dystopie sur la fin de l'adolescence, un hymne à la désobéissance, Laurent.
Oui, c'est un premier long de fiction. C'est effectivement le côté dystopique qui n'est pas forcément le plus intéressant, parce qu'on a l'impression de l'avoir un peu déjà vu, les sociétés totalitaires qui nous filment en permanence. Bon, voilà, c'est quelque chose, c'est un motif que le cinéma sait désormais très bien faire, et avec intérêt, parce que la vidéosurveillance totalitaire nous occupe tous, évidemment. En revanche, moi, ce qui m'a beaucoup surpris et beaucoup plus intéressé, c'est que c'est la peinture d'une jeunesse japonaise politisée. Et je ne suis pas certain qu'on voit ça très souvent au cinéma, franchement. Et là, on y va vraiment dans la description de ce côté-là. Et c'est ce qui m'a réellement capté dans ce film qui est devenu, du coup, intéressant et singulier.
Honeymoon, c'est une toute jeune réalisatrice ukrainienne qui s'appelle Zana Ozirna. En fait, elle raconte la première nuit d'amour d'un couple dans un appartement en février 22. Et puis, elle met en scène les premières explosions. C'est un huis clos intimiste, on ne verra pas les Russes. C'est un dispositif minimaliste, là.
Oui, c'est un petit film sans moyens. À cause de la guerre qui arrive et où le financement est empêché évidemment par la situation ukrainienne. Or, le film raconte exactement ça aussi, c'est-à-dire comment un jeune couple va s'enfermer dans un appartement et en faire le moins possible pour ne pas être repéré. Donc cette économie de moyens, elle est parfaitement en écho avec leur situation. L'appartement devient comme ça le centre d'un monde, et la guerre est évoquée uniquement par les sons. C'est absolument remarquable. Il y a un travail de recréation de ce que doit être, on imagine. Heureusement, on imagine. on n'y aimerait pas y être, mais uniquement des bruits, ça c'est vraiment un travail cinématographique passionnant. Moi j'ai rarement ressenti cette espèce d'effet de la terreur, de l'enfermement par rapport à ce qui se passe hors champ.
Moi qui t'aimais, Diane Curis, fascinée depuis longtemps par le couple Montand-Signoret, leur consacre un biopic sur les 12 dernières années de leur vie conjugale, je dis bien conjugale et en dehors des plateaux, Laurent.
Oui, alors tout le monde s'est sbobi devant la première scène où on nous fait comprendre que Roche Dizem n'est pas Montand et que Marina Foïs n'est pas Signoret. Non, ce sont des acteurs qui sont en train de se maquiller pour devenir ce qu'ils vont être.
Un comédien d'Alarté.
Donc Marion Cotillard n'est pas Édith Piaf, il faut le dire, il faut que les choses soient bien claires.
Il était temps.
Franchement, je ne sais pas comment on peut s'esbobir devant l'idée que le cinéma est un artifice. C'est très très étonnant, mais manifestement ça prend. Bon, le reste est à l'avenant, on se croirait, Diane Curis a pensé que le plus simple c'était de faire comme si la vie de Signoret et de Montand, c'était comme dans un film de Claude Sauté. Donc ils sont à la campagne, ils s'engueulent, ils ont des copains, etc. Bon, ça n'a strictement aucun intérêt, d'autant plus que les acteurs recrutés pour être Reggiani et François Perrier, par exemple, sont en dessous de tout et surtout du charme de ces deux acteurs-là.
Ou Trintignant.
Quant à l'utilisation finale, notamment, ouais, de la musique des choses de la vie de Claude Sauté, alors là, allez, je me tais.
Prix d'excellence quand même à Marina Foïs quand on parle de l'intelligence de l'acteur. Elle la possède, cette grande actrice, dans son jeu subtil en ressemblance et en dissemblance. Soundtrack to a coup d'état, Laurent, de Johann Grimont-Prez. Jazz, politique et décolonisation s'entremêlent dans ce grand huit historique qui révèle un incroyable épisode de la guerre froide. Quel est-il ?
Alors, en fait, c'est un film belge qui, effectivement, s'intéresse à deux mouvements concomitants. D'une part, l'assassinat du leader Lumumba par Mobutu, la CIA et les Belges. Oui. Quand on a les trois contre soi, on ne pèse pas grand-chose. Et malheureusement, effectivement, ils ont eu sa peau. Et en même temps, le cinéaste met en parallèle la politique des États-Unis, une politique culturelle entre guillemets des États-Unis qui à ce moment-là demande à des chanteurs noirs, des jazzmen noirs américains, d'aller en Afrique pour en quelque sorte porter la bonne parole négro-américaine, oui, on va dire. C'est absolument saisissant dans le télescopage des choses, parfois un peu forcé, c'est vrai, la juxtaposition est un peu artificielle, mais franchement, vu ce que ça raconte, vu ce que ça dit, on dépasse cette artificialité et on reste absolument pantois de ce qu'on nous montre.
C'est là qu'on voit Khrushchev en train de taper sur, oui, le bureau au rythme de la musique de jazz.
En pleine guerre froide.
Stup de Alice Audio et Jean-Robert Vallet, Vialet. Le tribunal de Marseille est débordé par les affaires de stupéfiants. Ceux qui sont jugés sont soit les gérants d'une économie du chaos, soit les petits travailleurs du shit. Ils ont filmé entre autres les geôles qui sont les lieux de détention au sein du palais de justice de Marseille. La réalité de la justice et ses carences, là.
Oui, oui, alors pas de voix off, pas d'entretien, on songe immédiatement au travail de Wiseman ou de Pardon, et la filiation est tout à fait assumée, je dirais, et elle est pas... elle est intéressante. Les prétoires, le bureau des juges, les cellules du palais de justice, on a évidemment vu déjà tout ça, mais je crois qu'il faut montrer régulièrement cette réalité. On parle, on ment, on pleure, c'est l'ordinaire d'un quotidien pénal, réservé, hélas, la plupart du temps à des populations précaires, hein, des femmes, des mineurs, des étrangers, des malades. Bref, c'est la radiographie d'un système qui a beaucoup de mal à fonctionner, où la prison est prise comme un remède mais qui ne guérit rien, et où les petits toxicos sont recrutés pour devenir des gros vendeurs. C'est absolument désespérant.
Une merveilleuse reprise, Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, en train de cartonner au box-office avec le réjouissant Une bataille après l'autre. Là, c'est une comédie romantique insolite, radieuse, sans les conventions du genre, avec trois merveilleux acteurs, Adam Sandler, Emily Watson et Philippe Seymour Hoffman, et autres reprises.
On en a parlé récemment avec Dominique Blanc
et La Reine Margot.
La Reine Margot de Patrick Chéreau, opéra funèbre extraordinaire qu'il faut voir sur grand écran, c'est son lieu naturel.
Deux minutes pour quatre cadeaux.
Alors un petit festival du cinéma, juste festival du cinéma allemand du 8 au 12 octobre, oui, à l'Arlequin, à Paris, vous irez voir la nouvelle vague allemande, on peut dire. D'accord. Façon. Nous serons très italiens ce matin pour des raisons d'actualité. C'est comme ça, mais le cinéma italien, on l'adore. Pour vous, Michel Halberstadt, je ne sais pas si vous le connaissiez, moi je ne le connaissais pas. Il Ferroviaire, et qui est le cheminot en français, c'est le film préféré de Pietro Germi.
Ah bon ?
C'est un, mais oui, c'est un drame social qui date de 1956. C'est chez, il est édité par Carlotta.
Ouais.
Il est préfacé par Jean Agili. On peut se demander ce qui n'est pas préfacé par Jean Agili pour tout ce qui est italien.
Italien,
je plaisante, mais on l'adore et c'est un, c'est un savant du cinéma italien. Donc on est heureux de vous faire découvrir ce film et on le conseille fortement, évidemment, à nos auditeurs.
Merci.
On va déborder. Allons-y vite.
Alors très très vite, chez Tamaza, trois films italiens. Vous voulez distribuer, les garçons. Ah. Les Complexés de Dino Rizzi avec Nino Manfredi, Alberto Sordi et Hugo Tognazzi. On fait pas mieux. C'est un film à sketch comme Les Monstres. Il Vedovo, Le Veuf en français de Dino Rizzi avec l'éternel Alberto Sordi, parfait en bras cassé. Et enfin, Le Jeudi, Il Giovedì, toujours de Dino Rizzi avec Michel Mercier. Ce sont le récit des retrouvailles d'un père et de son fils. C'est magnifique. Je vous les donne en vrac.
Merci beaucoup.
Vous
merci
les répartissez.
Merci Michel Halberstadt.
Merci
d'avoir produit avec Laurent Pétain ce film si réjouissant. Merci Guillaume Marbeck, Jean-Luc Godard, Adrien Rouillard, François Truffaut et Mathieu Pachina, Raoul Coutard.
Merci beaucoup.
Le film sort mercredi prochain et on signale quand même que Gene Seberg est interprété par Zoé Deutsch.
La merveilleuse Zoé Deutsch.
Merci à notre belle équipe Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Dutier à la préparation et Thierry Dupin à la programmation musicale. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci France Inter.